Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur votre radio locale. Bienvenue dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et en ce début de nouvelle année, je réitère tous mes voeux que cette année 2023 soit lumineuse, pleine de chaleur et de satisfaction et vous permette aussi beaucoup de découvertes et de plaisir, à la fois dans les livres, mais également dans la fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Alors en ce début d'année, je vous propose de réentendre une émission qui a été diffusée une première fois sur l'antenne de Radion le 9 juillet 2022 avec Diane Ducret qui faisait paraître alors son dernier roman aux éditions Flammarion et qui avait pour titre Le Maître de l'Océan. Diane Ducret est historienne, philosophe et journaliste. Elle s'est fait connaître en 2011 avec Femme de dictateur. Et elle avait également fait paraître un roman Corpus Equi, en grande partie autobiographique, dans lequel elle racontait l'histoire d'une jeune femme qui découvre à 11 ans l'ivresse de l'équitation à travers le poney. Promise à une belle carrière dans l'univers de l'équitation jusqu'au moment où survient l'accident qui brise ses rêves et qui ne la laissera pas indemne. Je rappelle quelques autres romans de Diane Ducret, Les Indésirables, La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose, et puis notons aussi La dictatrice parue en 2020 aux éditions Flammarion, qui est d'ailleurs en cours d'adaptation en série aux États-Unis. Diane Ducret, que vous allez entendre d'ici quelques secondes, va parler bien sûr de son roman, Le Maître de l'Océan. Il s'agit du destin d'un petit orphelin chinois. Et d'ailleurs, les premières pages du livre rappellent la notion d'océan primitif, rappelant aussi qu'avant que n'émergent les continents, la flore, la faune et l'humanité, la planète n'aurait été qu'une sphère liquide. Diane Ducret.
Oui, j'aime assez cette image mythologique, assez belle finalement. C'est vrai que ce livre, c'est donc l'histoire de ce jeune orphelin chinois, prédestiné ou destiné à embrasser une carrière de moine taoïste et qui refuse finalement de renoncer au monde pour se dédier à la sagesse et à l'étude des textes parce que sa mère, avant de décéder, avait eu une vision, celle d'une vague infinie qui se déroulait calmement. Et donc il a une obsession, aller voir l'océan. Et c'est un livre sur la philosophie taoïste, mais aussi sur la philosophie chrétienne, qui est très importante pour moi, et qui nous montre comment finalement la mer et l'océan sont le lieu d'une très grande philosophie, le lieu d'une spiritualité, le lieu d'une religion laïque, je pense, qui peut amener beaucoup d'équilibre, beaucoup de force à l'homme.
Alors justement, ce jeune homme orphelin n'a pas de prénom dans le roman, sauf erreur de ma part, à moins que j'aie manqué son prénom. Mais
ça m'étonnerait que vous ayez loupé cela, quand même, vous connaissant un tout petit peu, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est vrai, c'est un livre qui nous parle d'universalisme. C'est un livre qui nous montre que entre l'Orient et l'Occident, entre l'âge d'enfant et l'âge d'adulte, entre le voyage intérieur et le voyage extérieur, qui va être celui le sien, finalement, cet enfant, ce jeune adolescent, ce jeune adulte, c'est un peu nous. Il n'a pas de prénom parce qu'il est un peu nous-mêmes. Je crois vraiment que à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a, en tout cas à l'intérieur de moi, je crois qu'il y a un adolescent, un éternel adolescent qui est un peu qui regarde le monde avec colère, injustice, avec ferveur aussi, avec curiosité. Et j'ai la sensation que cette adolescence marche à côté de nous toute notre vie, qu'on le perçoive ou non. Peut-être une partie de nous s'arrête-t-elle de grandir le jour où l'on perd ses parents, je ne sais. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a toujours à l'intérieur de nous, qui marche, qui nous suit dans toute notre existence, voilà, un jeune le jeune adolescent qu'on était.
L'adolescence ne serait-elle pas, Diane Ducret, la première patrie d'un écrivain ?
Oui, c'est vrai, parce que c'est le moment de la découverte, des émotions puissantes, fortes. C'est le moment de la découverte de l'injustice aussi du monde. C'est le moment, pour la première fois, où l'on a cette sensation de ne pas trouver sa place, ou d'avoir une place à chercher, à créer. C'est le moment où l'on regarde ses parents avec leurs faiblesses aussi, leur réalité, où on sort de l'idéalisation de l'enfance. C'est un moment, c'est celui de tous les dangers, je trouve. C'est un moment très émouvant, et c'est en cela où je pense que toutes les expériences que nous faisons adolescentes nous restent en nous profondément.
C'est aussi le moment de tous les possibles et des bons choix, éventuellement.
Absolument, des bons choix ou des mauvais, c'est vrai, mais oui, c'est le moment de tous les possibles.
Un peu nostalgique, Diane, de votre adolescence ?
La mienne n'a pas été très, très heureuse, puisque j'ai malheureusement eu un accident assez jeune, adolescente, où j'étais cavalière de saut d'obstacle. On l'a vu avec Corpus Equi, qui raconte aussi, c'est surtout l'histoire aussi d'une chute. J'ai eu un accident de cheval et on m'a annoncé, alors que j'avais 16 ans, que je ne remarcherai jamais. J'ai mis plus de 12 ans à remarcher. C'est très long à cet âge-là. Ce qui fait que l'âge de tous les possibles et de la liberté a été pour moi un âge plutôt d'enfermement, de lutte intérieure, où je me disais, faut-il accepter la perte, le handicap, ou faut-il se battre et ne pas accepter ? Mais cela veut dire peut-être s'enfoncer avec ces sentiments de colère et d'injustice dont on parlait. Et je crois que c'est le fait d'avoir été contrainte à l'immobilité qui a fait que j'ai dû développer les choses de l'esprit et développer cette philosophie de l'océan, puisque j'avais la chance de grandir, de vivre à Biarritz, au bord de l'océan, qui, je pense, m'a sauvée face à cette tragédie, on peut le dire, face à toutes ces années où, malgré les tentatives pour remarcher, cela ne venait pas. L'océan, lui, me rendait cette force, cette
Donc
sensation d'infini.
C'est une reconnaissance à l'océan,
oui, absolument, absolument. Disons que lorsque la pandémie a éclaté, j'ai vu vraiment mes contemporains souffrir de l'enfermement, de l'immobilité, d'une certaine perte de repères aussi. Et je me suis dit, moi, cela m'affecte beaucoup moins parce que je suis entraînée à cela. Je suis entraînée à cette perte de liberté, à cette immobilité. Mais je suis entraînée aussi à la vivre comme un sport de combat presque, à la traverser avec grâce, avec espoir, parce que je sais qu'il y a toujours derrière quelque chose d'autre. Et par exemple, au bord de l'océan, lorsque la mer semble déchaînée, il y a toujours cette idée que derrière les vagues, au fond, il y a l'horizon qui est toujours calme, toujours infini, toujours serein. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement rassurant dans cette image-là. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à transmettre, là.
Et finalement, justement, ce roman est un éloge de l'océan qui va être, pour ce jeune orphelin, alors on va développer un petit peu l'intrigue sans trop en raconter, il s'agit de bien peser un peu nos propos, mais l'océan est une sorte de miroir, alors, qui est à la fois féminité, sensualité, harmonie, équilibre et qui est presque un professeur de vie pour notre jeune orphelin qui va acquérir la sagesse telle que le taoïsme attend d'un disciple, de ce qui est une philosophie en fait chinoise.
C'est un beau résumé. C'est vrai, finalement, l'idée du livre, quelle est-elle ? Elle est que entre la philosophie chinoise taoïste, qui est la pensée de l'harmonie, ou la philosophie chrétienne, catholique, celle qu'il va trouver en arrivant au pied du Mont Saint-Michel, où il va séjourner, eh bien, peut-être que n'avons-nous pas besoin des textes. Peut-être que par l'expérience, par la sensation, l'intuition, par la confrontation avec ce vrai miroir de l'âme qu'est l'océan, nous pouvons accéder à cette harmonie, à cette sagesse, nous pouvons retrouver un sens. C'est véritablement l'expérience qu'il va faire, c'est celle que j'ai faite également. Et en effet, c'est un vrai miroir de l'âme. Parfois, lorsque l'océan est déchaîné, vous savez, l'océan, c'est la naissance originelle, mais c'est en même temps ce qui peut nous tuer par sa force. On peut se retrouver grâce à l'océan, on peut s'y perdre aussi. J'ai découvert, en travaillant sur ce livre, une phrase très forte de Spinoza. Il appelle le sentiment océanique. Ce qu'il appelle le sentiment océanique, c'est d'abord ce sentiment d'angoisse qui nous prend face à cette face à cet infini qu'est l'océan, face à sa puissance. On ne le maîtrise pas tout à fait, ça fait peur. Et puis soudain, sensation de lâcher prise, en se rendant compte que finalement nous sommes faits un petit peu des mêmes particules, qu'il relie tous les êtres de la création entre eux, et qu'il respire, inspire, respire à nouveau, finalement qu'il est la respiration du monde. Et Spinoza décrit cela comme une sorte de miracle, comme une sorte de révélation religieuse, mais sans autre Dieu que la nature elle-même. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau et assez réel finalement.
Et vous aussi, Diane, il y a quelques tournures dans votre roman concernant l'océan. Alors à un moment, c'est un abbé au Mont-Saint-Michel qui dit à notre jeune orphelin, il a 16 ans me semble-t-il. Lorsqu'il...
Au début de l'aventure, et puis il va repartir, il sera un adulte. Il
parce
aura
qu'en fait,
21
il fait
ans.
Un séjour de 7 années
absolument,
au Mont-Saint-Michel. Donc
absolument.
C'est en plus le chiffre 7, il y a
oui,
à mon avis...
Parce qu'il faut dire qu'avant de partir, il a dû demander l'autorisation au Maître Céleste. Qui a, en réfléchissant, lui a donné l'autorisation de partir pour découvrir l'océan, partir dans cette grande aventure, mais en lui disant « Tu ne reviendras pas avant que l'océan t'ait parlé. » Et en effet, il va rester pendant 7 ans, parce que l'océan ne lui parle pas, évidemment, mais il va lui parler sous une autre forme, découvrira-t-il par la suite.
L'océan lui parle aussi de lui, parce qu'il va découvrir qu'il est un esprit, un cœur et un corps.
Ouais,
parce qu'il y a des scènes sensuel,
oui.
Où parfois il est troublé par la caresse des vagues.
Oui, absolument. C'est vrai que l'océan va être la mer qu'il avait perdue par sa caresse, va le réconforter parfois par sa chaleur, mais va être aussi cet éducateur au corps, à la sensualité, à l'eau. Il découvre aussi ces jeunes gens en maillot de bain qu'il ne connaît pas sur la plage. Lorsque l'océan est en colère et absolument vrombissant, il va manquer de se noyer, d'être emporté, et donc il remarque sa petitesse.
Mais l'abbé lui dit que c'est une forme de baptême.
Oui, absolument. Cet abbé a beaucoup d'humour. Il lui réinterprète les textes chrétiens avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a fait des textes religieux quelque chose de canonique, quelque chose de tellement grand que nous n'osons plus les approcher, nous n'osons plus les lire en dehors de l'aspect religieux, mais tout simplement pour leur poésie, pour leur beauté, pour leur humour aussi parfois. Et quand on s'y intéresse, on voit que la notion d'eau est très importante dans l'Ancien Testament ou le Nouveau. Dans la Genèse, on dit « l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux », comme si finalement il y avait là aussi « l'eau était avant toute chose ». Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est toujours celui qui marche sur l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher sur l'eau ? Il est toujours celui même qui apaise les eaux en colère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi les eaux en colère ? Comme si finalement marcher sur l'eau, c'était à la fois le détachement et l'incarnation ultime, la puissance par rapport à ses propres émotions, par rapport surtout à la peur. Les eaux en colère dans le Nouveau Testament représentent la peur.
Il faut avoir confiance aussi.
Il faut avoir confiance. Il ne faut pas laisser la peur gouverner, sinon nous nous noyons dans nos eaux intérieures, qui sont celles de nos sentiments. Je trouve que c'est un beau message, ouais.
On va marquer un premier intermède musical, Diane Ducré, mais il y a une véritable richesse de votre texte. Vous avez déroulé des vagues littéraires. Il y a une écume allégorique de l'océan qui est amour, qui renvoie tellement... d'éléments qui... C'est un roman d'apprentissage. C'est, je disais, l'océan miroir, donc on peut se voir dans l'océan. Et votre jeune orphelin est troublé, enrichi, remué par cet océan qui le ramène aussi à la vie, à sa mère, puisque bon, la figure maternelle disparut prématurément, mais qui a eu une vision de ce sanctuaire d'or. Et lui, ce sanctuaire d'or, c'est, me semble-t-il, et c'est valable pour chacune et chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est une véritable fable universelle. C'est quand même la quête du bonheur et de l'harmonie, d'être bien avec soi et avec ce qui nous environne. Enfin, pour ma part, c'est de cette manière-là que j'ai appréhendé votre roman, dont je rappelle le titre, « Le maître de l'océan ».
Oui, c'est vraiment ce que j'ai voulu construire, en effet, dans ce roman d'apprentissage. Au sens de l'apprentissage de l'être homme, au sens de l'apprentissage au bonheur, c'est-à-dire ce chemin que nous parcourons toute notre vie durant, entre l'acceptation des sentiments négatifs, de la perte d'autrui, de la perte la plus tragique, qui est celle de la perte de la mère, et en même temps l'acceptation de la nouveauté, de la richesse, de ce que le monde a à nous offrir aussi à l'intérieur de nous. J'aime cette notion d'équilibre et d'harmonie. J'ai l'impression que nous sommes dans une époque en déséquilibre, vraiment. Et comme il y a tant de conflits et tant de crises autour de nous, comment avoir un monde en paix si nous n'essayons pas d'atteindre un tant soit peu cet équilibre à l'intérieur de notre propre monde, c'est-à-dire nous?
Je suis bien d'accord. Et l'équilibre de l'émission, c'est que c'est le moment de la pause musicale. Je rappelle que c'est Diane Ducret qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radio N pour son dernier roman paru chez Flammarion et qui a pour titre « Le maître de l'océan est-elle une vague ?» Nous revenons juste après.
Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais moi tout ça, j'ai pas faire. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi?
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le maître de l'océan, Diane Ducret, c'est votre dernier roman sorti en mars de cette année 2022, donc qui met en scène un jeune Chinois qui prématurément se retrouve orphelin. Son père, il a très jolie formule. Il dit cela à l'abbé au Mont-Saint-Michel. Il dit « J'ai été fils de ma mère et l'orphelin de mon père ».
Oui, parce qu'il n'a pas connu son père. C'est très intéressant. C'est vrai que j'ai aimé l'idée de travailler sur la filiation et surtout l'absence de filiation, finalement. Comment accoucher de soi-même lorsque l'on a été mal mis au monde, finalement, lorsque personne ne nous a transmis une partie de notre identité. Il faut bien alors se la donner à soi-même, aller la chercher dans les mythes, dans des éducateurs qui vont s'improviser sur notre chemin, qu'on les connaisse 5 minutes ou 5 ans parfois, hein. Des professeurs, là c'est un moine un peu ventripotent rencontré au Mont-Saint-Michel, assez bonhomme, ou avec justement cet océan, avec sa loi naturelle un peu dure aussi. J'aimais vraiment cette idée de travailler là-dessus, qu'il soit chinois, français finalement ou italien, nous importe peu, je dirais, puisque C'est le chemin du retour vers soi, car le plus dur, ce n'est pas de partir de son pays, de s'échapper. Finalement, il s'échappe à la destinée qui était la sienne. Mais comment faire retour lorsque l'on s'est échappé, lorsqu'on a voulu aller loin, loin de nos parents, loin de ce que l'on connaissait pour se définir soi? Souvent, on perd un peu la boussole pour faire retour.
En tout cas, il a été bercé par des lectures du livre, le Tao Te Ching, donc, qui est la référence littéraire. C'est le livre de la voie de la vertu, donc de Lao Tzu. Je rappelle, le taoïsme est une philosophie. Il a été bercé par les lectures de ce livre par sa mère, donc il se retrouve vite sans maman, élevé par un grand-père qui ne sera pas un papa de substitution, puisque finalement, il essaie d'en faire une sorte de charpentier.
Oui, c'est ça. Homme matérialiste, finalement. Et un homme de son temps, quelque part.
Et il n'a pas de talent de ses mains, ce petit orphelin.
C'est un contemplatif.
C'est ça.
Au lieu d'aller couper du bois en forêt, il s'assoit au pied de l'arbre et il observe la fourmi, l'écorce, la feuille qui se balade dans le vent. Bon, bref, pour son grand-père, il n'a pas d'intérêt puisqu'il ne rapporte pas d'argent. Et donc, on va le presser de prendre un métier, alors que ce n'est pas encore ce temps-là pour lui. Et donc le voyage est-il une fuite ou est-il au contraire finalement un retour vers un autre ailleurs où il pourra enfin exister?
Alors Diane, il faut situer l'action du roman. Il m'a semblé que c'était peu après l'accession de Mao en Chine. Donc on est au tout début, la Chine du début des années 50.
On est au tout début
qui commence
de la révolution
à découvrir
chinoise,
le communisme.
Absolument, hein. on est sous la révolution chinoise, même si on ne le mentionne pas à nouveau. Je ne voulais pas en faire un livre politique, nullement. Pour moi, le rapport est... On est dans la philosophie, la poésie et... Vous savez, en France, on aime se répéter à loisir cette phrase de Céline, on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Et je m'étonne à chaque fois que tous les critiques comme les auteurs nous resservent ce poncif comme si c'était une vérité absolue. Enfin, Céline a quand même écrit aussi beaucoup d'horreurs et beaucoup de choses qui ne sont absolument pas très respectables. Et je pense que la grâce, l'harmonie, l'humilité sont des vertus que l'on peut retrouver en littérature et qui existaient d'ailleurs dans ces grands contes philosophiques tels qu'on les faisait au XVIIIe siècle. C'était une grande tradition française qui servait beaucoup à l'éducation des personnes. Et finalement, nous avons réduit la philosophie à des ouvrages spécialisés et théoriques.
Mais c'était aussi une époque de progrès. Nous sommes dans une époque de progrès plus technologique, alors que le XVIIIe a été un grand siècle de progrès intellectuel, philosophique, politique aussi, et pas qu'en France.
Oui, la structuration de la pensée scientifique et la pensée philosophique, qui est une pensée scientifique à l'époque, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes dans une période complexe, je dirais, en effet, de développement plus que de progrès, mais peut-être de développement technique, économique, de communication aussi, sans avoir peut-être grand-chose à se dire et sans s'être mis d'accord surtout sur... nous partageons cette fameuse mondialisation qui est avant tout matérielle, mais sans nous mettre d'accord sur quelles sont les valeurs mondes que nous partageons.
Et qui entraîne sans doute un peu de barbarie.
Sans doute, vous êtes bien généreux.
Notre petit jeune homme aussi, il est placé par le grand-père donc, dans ce monastère taoïste qui a été bâti il y a 1000 ans. Donc il se retrouve au pic du Cheval Blanc. Clin d'œil au pic du Cheval Blanc, 1000 mètres d'altitude. Il faut dire que le régime communiste a lutté contre ces temples qui ont été pillés, détruits, et les moines se sont parfois cachés pour continuer à méditer et à rester en harmonie avec cette philosophie taoïste.
Oui, je trouvais que c'était très intéressant parce que sur ces monts Wudang, puisqu'ils s'appellent ainsi, où il y avait tous les monastères, quelle richesse pour l'humanité. C'est là où sont nés les arts martiaux intérieurs, comme le tai chi notamment, la calligraphie, la phytothérapie, l'acupuncture. Des sciences vraiment de l'homme qui visent l'harmonie globale du corps et de l'esprit, de l'homme et de la nature, de l'individu avec le collectif, et qui encore aujourd'hui connaissent un essor fantastique. Mais en effet, cela rendait les moines très libres, très rebelle aux idées du pouvoir, qui très vite va voir une vraie menace au pouvoir centralisé, puisque des êtres avec une liberté de pensée, avec une force physique, une force morale, une vertu, une détermination, ils sont incontrôlables. Donc c'est vrai qu'ils vont détruire la plupart des monastères. Et ce que j'aime, c'est que de la même manière, ce monastère tout en haut des montagnes, et puis ce monastère autre qui est le Mont Saint-Michel, lui, qui fait face à la mer, aux éléments, qui est battu par les flots et le vent, tous deux sont des lieux de résistance, quelque part.
Des forteresses, d'une certaine, forteresses, de l'esprit, peut-être.
Oui, des forteresses intérieures, des forteresses de l'esprit. Et je pense qu'il faut devenir soi-même ce type des forteresses intérieures dans ce monde qui est en crise, qui est un monde d'impermanence, qui est un monde très matérialiste, qui manque beaucoup d'espoir et surtout, qui manque beaucoup d'amour.
Et l'océan, je vous cite, Diane Ducret, très jolie formule, l'océan est la cathédrale de Dieu.
Ouais, j'aime assez cette idée. Je pense vraiment que nous manquons de transcendance, nous manquons d'un rapport à l'infini, au divin. On a voulu couper vraiment la tête à tout ce qui nous dépassait. Et je crois que l'homme, pourtant, ne supporte pas de vivre jamais dans l'histoire humaine. Nous n'avons vécu qu'entre nous, séparés d'un rapport à la transcendance. Alors, on n'est pas obligé de revenir en arrière et de replonger peut-être dans des dogmes qui peut-être ne nous accompagnent plus. Mais nous devons avoir une forme de religion qui peut être celle de la nature, celle des espaces infinis. Mais nous devons retrouver quelque chose que nous respectons, que nous aimons et qui nous aime en retour. L'humain, sans recevoir d'amour de quelque chose de plus grand, dépérit.
Je voudrais avec vous, Diane Ducret, parce que j'ai l'impression que vous connaissez bien le taoïsme. Vous en êtes peut-être sans doute une adepte. Vous essayez, je suppose.
J'avais lu les textes
années.
Taoïstes à 18 ans en commençant à étudier la philosophie. Je ne les avais plus jamais ouverts. Et puis en commençant à travailler sur le thème de l'océan, j'ai eu envie de les rouvrir. Et ce qui a été formidable, je me suis rendu compte qu'ils ne m'avaient jamais quitté et que je me souvenais de phrases entières. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une extrême simplicité, mais dans le très bon sens du terme. C'est un langage très imagé, des images très fortes qui restent en vous. Je pense vraiment que contrairement à une philosophie très très théorique qui essaye de vous enseigner, c'est une philosophie qui s'expérimente, qui a beaucoup de cœur.
Comme l'océan, finalement.
Ouais, exactement, c'est vrai.
J'aimerais qu'on revienne justement sur certains aspects du taoïsme, Diane Ducret. L'importance des contraires, c'est que finalement, le taoïsme ne cherche pas un monde parfait. Il faut arriver, si j'ai bien compris, à un équilibre entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. Arriver à un équilibre en ce qui concerne les éléments qui nous environnent. Et ces équilibres, il faut aussi, au niveau passionnel, au niveau spirituel, il faut être également dans la mesure.
Ouais, je trouve que c'est une philosophie beaucoup plus réalisable que certains courants de développement personnel actuels.
Oui.
Vous savez que beaucoup de psys disent voir arriver dans leur cabinet de thérapie des gens en burn-out de développement personnel. Pourquoi ? Parce que on a fait de cette quête du bonheur, dans notre culture très capitaliste, quelque chose qu'il faut performer. Il faut être totalement résilient. Il faut être très, très heureux. Il ne faut plus du tout être malheureux. Vite, c'est de la dépression. Il faut enlever, il faut cacher tout cela. Et malheureusement, ce n'est pas la réalité. Et on voit bien que cela nous rend extrêmement malheureux. C'est vrai que le taoïsme a ceci de fort, puisqu'il nous dit, ne cherche pas à supprimer les pensées ou les sentiments négatifs, la colère, l'injustice, la jalousie font partie de l'homme. Juste mets au regard, cultive en regard autant de sentiments positifs de manière à rester en équilibre. Et ainsi, et c'est vrai que cette nécessaire présence des contraires dans le monde, c'est quand on comprend cela, on perçoit beaucoup de choses le jour et la nuit, bien sûr, la joie et la tristesse. Pourquoi vouloir supprimer toute une partie de ce qui existe, le bien et le mal également, et ils sont nécessaires l'un ou l'autre. C'est évidemment le principe du yin et du yang qu'on connaît, mais exprimé ainsi, c'est voilà, l'air et la mer, la terre et le feu.
Et puis la méditation est essentielle. Et d'ailleurs, il y a cette exclamation dans votre roman. Quelle chose étrange que la méditation.
Oui, c'est perçu par ce jeune adolescent. Pour lui, ça n'a pas de sens, rester assis comme ça pendant des heures à regarder un texte ou regarder l'horizon. A priori, ça l'insupporte, lui qui n'a envie que de découvrir le monde et les objets extérieurs. Mais là aussi, c'est un peu un clin d'œil. Je pense qu'on comprend mal ce qu'est la méditation. Nous en faisons une pratique très exotique, nécessaire, obligatoire. Combien de personnes me disent « Ah, il faut méditer, tu médites pas ? Il faut méditer !» Une balade face à l'océan, en laissant aller ses pensées, est une méditation, en fait. Il n'y a pas besoin de pratiquer un certain type qui vient de méditation qui viendrait d'un pays exotique. Finalement, s'asseoir et contempler les vagues ou fermer les yeux et respirer en même temps que se gonfle une vague et du sac et du ressac, il y a un rythme qui est vraiment similaire à la respiration humaine. C'est une méditation aussi.
Et c'est un début de lâcher prise.
Absolument, absolument.
Tout simplement.
Oui.
Ne serait-ce que chez soi, quand on prend le temps d'écouter le chant des oiseaux
oui.
et qu'on se laisse bercer par cette mélodie, c'est du lâcher prise.
Absolument. Si l'on est chez soi, on ferme les yeux et s'imaginer au bord de l'océan, entendre le clapotis et entendre... Je vous assure que cela suffit largement finalement à apaiser l'esprit, ouais, grandement.
On poursuit notre échange, Diane Ducret, après une nouvelle, allez, on va dire une vague musicale. Je rappelle que Le Maître de l'Océan est disponible aux éditions Flammarion en librairie, un roman à lire cet été, sur la plage ou au fond de son jardin, sous un arbre fruitier avec un bol de thé et un kiwi éventuellement. On en reparlera sans doute. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire avec Diane Ducret. Nous revenons juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Now, all of my love, all of my love,
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Diane Ducret, revenons un peu aux illuminés qui pensent parler aux éléments et aux esprits. C'est ainsi que le régime communiste voyait ses moignons taoïstes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que notre jeune orphelin qui décide de quitter le monastère taoïste avec l'accord du grand maître veut aller découvrir l'océan parce que l'océan doit lui parler. Et donc forcément il quitte la Chine et il va en Europe, un long parcours en bateau, à fond de cale, au milieu de caisses qui contiennent ce que l'on appelle, Diane Ducret, les groseilles de Chine.
Les kiwis.
Et ce sont les kiwis. Alors apparemment, ce serait le début des exportations de kiwis en Europe.
Oui, c'est vrai que c'est un fruit qui est venu de Chine. Ça a été un des premiers fruits que la Chine a exporté massivement. Ça a été l'objet d'un très grand développement pour la Chine. Mais surtout, c'est l'occasion dans le livre de quelque chose de très tendre, puisque sa mère, qui était extrêmement pauvre, qui avait eu donc les pieds bandés, qui travaillait dans un champ et qui parfois se faisait battre lorsqu'elle n'avait pas ramassé assez de kiwis, parfois subtilisait un fruit et le ramenait à la maison discrètement, évidemment donnait à son enfant toute la chair et se contentait de boire les quelques gouttes de jus qui restaient sur la peau. Lui détestait ce fruit qui était très amer pour la bouche d'un enfant et se plaignait toujours alors qu'elle se privait pour lui. Et c'est une fois qu'elle disparaît qu'il repense au kiwi avec une tendresse immense en se disant « Je n'avais pas conscience de ce qu'elle sacrifiait pour moi et moi, je ne trouvais pas cela à mon goût. »
Et sa maman lui dit « Mange-en, ça te donnera une force de géant. » Et d'ailleurs, c'est amusant parce que ce n'est pas tout à fait au niveau de la forme et de la dimension la même chose. Mais à la fin de votre roman, Diane Ducret, vous dites que le jeune orphelin, après les 7 ans passés au Mont Saint-Michel, avec ses hommes de l'océan, donc ses prêtres, il a trouvé une perle. Et le kiwi serait une forme de perle un peu symbolique, pas tout à fait dans la même forme, mais...
Oui, c'est vrai. Il y a cette légende. C'est vrai que dans le livre, je mentionne quelques-unes des grandes légendes de la philosophie chinoise. Et il y a cette notion de perle autour de laquelle on travaille. Quelle est-elle finalement? Elle n'est faite que d'un peu de sable, un peu d'eau de mer, un peu de sel et un peu de calcaire. Et au final, c'est un trésor qui se forme là, juste par la grâce des éléments. Et je crois que c'est un peu aussi à l'image de cet éveil que j'appelle dans le livre. Un peu d'esprit, un peu de chair, un peu d'océan et un peu d'ouverture spirituelle. Et on peut faire générer cette perle à l'intérieur de nous.
En fait, le roman pourrait en partie se résumer avec cette phrase que j'ai notée dans votre maître de l'océan, un jeune orphelin destiné à devenir moine taoïste traversant les océans à bord d'un cargo chargé de kiwis. C'est un peu là. Mais ça va au-delà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il découvre aussi le monde occidental, une autre langue qu'il ne comprend pas. D'ailleurs, 7 ans plus tard, après avoir quitté le Mont-Saint-Michel, lorsqu'il retourne en Chine, il a des problèmes avec la langue chinoise qu'il a un peu oublié. Mais il côtoie les marins qui, eux, justement, il y a un éloge de la France, critique et éloge de la France sur le navire, où la France est présentée comme un pays de droit, comme un pays où les femmes sont sensuelles, même si elles ont les pieds un peu trop grands, et qu'elles sont grandes, puisque votre petit orphelin, c'est très mignon, il est pas plus haut qu'un pangolin.
Ouais. ouais, c'est vrai qu'il y a
ce regard. Et puis c'est la découverte de l'argent aussi.
C'est vrai, puisqu'il y a des jeux d'argent ça, dans la cale entre plusieurs nationalités, puisqu'ils vont passer par le canal de Suez. Donc
il y a un érythréen,
un égyptien, il va y avoir comme ça beaucoup de nationalités et qui vont parler de cette France vers laquelle ils vont accoster. Il y a un Algérien qui lui est très en colère après la France, et en même temps tous qui ont tant de griefs envers cette France, ils vont à l'assaut de la France parce qu'ils l'aiment, parce que finalement, malgré tout, ils en parlent avec le sourire, parce qu'ils ont hâte de remettre le pied sur le sol français, parce que finalement, les griefs qu'ils ont, ce sont les griefs qu'on a envers quelqu'un de sa famille, qui fait partie de notre famille, qu'on déteste mais qu'on aime malgré tout. Et j'aimais l'idée de cet éloge de la France quand même. N'oublions pas quel beau pays que le nôtre.
Et d'ailleurs, alors que le navire est dans la Méditerranée, je crois que c'est un marin chinois qui dit « ça sent déjà la France ». Je crois que c'est
absolument.
Lui qui dit « ça sent déjà la France ».
Ouais.
Donc effectivement, la France qui est courtisée, fantasmée, et la France des années 50, qui n'est peut-être plus tout à fait celle d'aujourd'hui,
ouais,
quand même.
Oui, ça s'écrit avec beaucoup de nostalgie, quelque part, ce chapitre. C'est vrai que ouais, c'est une France qui n'est plus forcément la même. J'espère qu'elle a toujours autant d'atouts. Je pense qu'elle est immortelle. Néanmoins, c'est vrai que, par certains aspects, on peut penser que c'est une belle endormie aujourd'hui.
Et voilà donc notre jeune orphelin qui arrive en France. C'est un abbé du Mont-Saint-Michel qui vient le chercher avec sa voiture et qui le conduit donc au Mont-Saint-Michel, je rappelle, dans le département de la Manche. Et alors là, effectivement, le héros a l'océan à ses pieds. Il faut maintenant que l'océan lui révèle ses secrets et il faut que votre jeune orphelin soit en mesure aussi de décrypter les messages de l'océan et de ses vagues. Parce que l'océan, vous dites qu'effectivement, il suffit de le regarder, le comprendre, mais ça demande tout de même des efforts. Il faut le dompter. C'est comme un cheval. J'ai eu l'impression qu'il y avait une comparaison. Là.
C'est une relation, c'est une dialectique de maître et de l'esclave, peut-être presque. C'est une relation difficile. Et c'est vrai que le premier abord est assez décevant. D'abord, l'océan se fait désirer, puisqu'il est en marée basse. Et donc, il ne le voit pas, il dit, mais il a voulu fuir, il veut fuir l'approche, le combat. Il se retire alors que j'arrive vers lui. Et puis au final, la mer remonte et manque de l'engloutir. Il dit, mais là, l'océan m'a avalé tout entier et m'a recraché. Mais quelle indignité, pourquoi me traite-t-il ainsi? C'est vrai que les débuts ne sont pas forcément folichons.
Il y a un petit rappel un peu, Robinson Crusoe, comme ça, le rejet sur la plage. Il y a plein de clins d'œil littéraires à cet océan qui rejette l'enfant, qui parfois l'avale. On peut penser à Jonas.
Jonas, qui est une figure que j'aime beaucoup également. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui.
Un jeu littéraire et puis un jeu culturel avec effectivement la mythologie, des références bibliques. Ça, c'est très, très intéressant. Voilà, faire travailler les élèves sur des passages.
Oui, c'est vrai. J'aime cacher plein de références que si nous ne les avons pas, eh bien peu importe, on profite simplement du texte. Mais oui, j'aime cacher beaucoup de références à des textes. Je trouve ça assez amusant et assez stimulant pour le lecteur d'essayer de découvrir comme ça.
Et puis vous avez une qualité, Diane Ducret, c'est aussi l'emploi des métaphores. Parce que par exemple, pour notre jeune orphelin, il s'agit de dompter la mer et les vagues notamment, il dit « je tentais d'en attraper les crins sauvages, de les chevaucher ». Et vous dites de lui, c'est superbe, il est le palefrenier de l'océan.
Ouais.
C'est vraiment joli.
J'aime bien cette image, oui. Vous savez, c'est la pensée asiatique qui aime parler par métaphore. Et là aussi, je me dis, peut-être y a-t-il quelque chose dont nous pourrions nous inspirer actuellement. Une métaphore implique de parler, d'avoir un élément intellectuel et un élément du cœur ou de l'émotion. Je crois que c'est un beau mélange, c'est un bel alliage.
Et alors, justement, là encore, je dirais beaucoup de délicatesse, euphémisme aussi. Ne pas succomber. Il faut que notre petit chinois taoïste accueilli au Mont-Saint-Michel dans une communauté catholique, il ne doit pas succomber à la sensualité. Vous l'avez dit, sur les plages, bon, il y a un personnage féminin un peu troublant. Il y a effectivement des baigneuses. Bon, c'est la découverte aussi pour lui des formes et d'une féminité troublante. Et justement, il y a les vagues aussi, la mer, il y a des passages, c'est très fusionnel, presque quelque chose de l'ordre d'une union sexuelle. Enfin, je vais un peu loin peut-être.
De l'érotisme,
c'est ça. La preuve, c'est que, je me permets, Diane, de vous citer, parce que je trouve ça sublime, « une main invisible venait de glisser le long de mon ventre jusqu'à l'endroit où les hommes fleurissent sous l'effet de leur sens ». Voilà une phrase à donner à comprendre à des adolescents.
Oui, mais je pense que ça leur ferait du bien dans le sens où il faut parler de ces choses-là, mais nous ne sommes peut-être pas obligés d'en parler On peut en parler là aussi avec grâce à demi-mot, laisser deviner ou laisser à comprendre, suggérer, ça me paraît intéressant aussi dans une éducation.
Ah, c'est très malarméen, suggérer oui. plutôt que dire.
Hein. Absolument, absolument.
Et là, ça renverrait à une richesse poétique oui. et à une bonne maîtrise de oui. sa langue maternelle.
Absolument.
Il y a aussi une thématique, celle de l'instabilité. Bien souvent, et c'est aussi, à mon avis, beaucoup de modestie de la part de notre jeune orphelin, qui est quand même un enfant chagriné, il ne faut pas l'oublier, qui est un peu seul, il faut l'imaginer, à 17 ans, arrivé en France, j'allais dire en terre inconnue.
Oui.
Et ses pas sur le sable avec les vagues qui effacent, il se rend compte que finalement, un jour, nous allons disparaître, qu'il y a des éléments qui restent et que l'océan donc est puissant parce qu'il est éternel et il est antérieur à toute vie humaine, d'une part. Et d'autre part, nos vies sont condamnées un jour à s'interrompre. C'est terrible, mais il faut l'accepter.
Vous savez, c'est la définition de la philosophie, la meditatio mortis, la méditation sur la mort à la base. Et c'est ainsi qu'elle nous apprend à mieux vivre. Pourquoi ? Parce que la conscience de cette finitude nous montre qu'il y a une vie à goûter et à ne pas laisser passer. Oui, et cet apprentissage de notre impermanence, finalement, c'est une éducation à l'humilité. Et peut-être que nous en manquons aujourd'hui d'humilité. Vous savez, nous avons cette sensation. On nous a enseigné depuis depuis deux générations ou trois, on a le droit au bonheur, il faut se réaliser personnellement, il n'y a aucune limite, etc., etc. Mais finalement, avec cela, nous nous pensons peut-être un peu trop importants, chacun, et nous oublions cette notion d'impermanence. L'image est belle. On en fait l'expérience lorsque l'on se balade au bord de l'eau. Marche-t-on sur le sable, à peine la vague passe et elle efface notre empreinte. Mais le sable reste et la mer reste, mais pas notre empreinte. Et c'est en effet, oui, je trouve une conscience simple, criante, du fait que nous ne sommes pas si importants et en même temps, cela veut dire que nous sommes légers, cela veut dire que nous avons notre place parmi ces éléments-là. Je trouve que c'est libérateur au contraire.
Et puis, il s'agit aussi de ne pas succomber au mirage. Par exemple, alors qu'en Chine, notre jeune orphelin, après la disparition de sa mère, est recueilli par le grand-père lui dit « va chercher du bois dans la forêt ». Et effectivement, vous l'avez dit précédemment, votre jeune héros admire les arbres. Et médite et regarde les arbres. Et il y a des feuilles qui tombent, et puis il y a cette stabilité du tronc, cette robustesse, cette force du tronc. Et je trouve très intéressant parce que finalement, dans des moments de doute, où nous ne nous sentons pas forcément très bien, on se considère un peu comme une feuille fragile.
Une feuille dans le vent. Ouais.
Alors que finalement, il faut essayer de se dire « Non, je suis un tronc solide, robuste, je me tiens droit ». Et je dois maintenir le cap.
Oui, c'est vrai. Cette métaphore vaut aussi donc pour l'arbre. C'est vrai, on peut se dire je suis les racines, d'où jaillissent plein de possibles. Je suis le tronc, je suis la feuille qui tremblote dans le vent. Mais je ne suis pas que la feuille qui tremblote dans le vent. Et s'il y a la feuille, c'est bien la preuve qu'il y a un tronc et qu'il y a des racines. Donc au moment où nous nous sentons fragiles et balayés par les événements, par les drames, la maladie, le deuil, que sais-je, eh bien, toujours se dire, je ne suis pas la feuille. Si je suis la feuille, c'est bien que je suis aussi le tronc, la racine, la sève. Et chacun de ces éléments qui, eux, sont forts, solides et enracinés.
Et la noblesse de notre petit taoïste arrivé au Mont Saint-Michel, c'est une volonté très affirmée. Il se bat avec l'océan parce qu'il veut, lui, revenir en Chine en disant « l'océan m'a parlé ». Et à un moment, il dit « je préférerais périr sur cette plage », c'est au moment où les vagues ont failli provoquer sa noyade, « je préférerais périr sur cette plage plutôt que de vivre en raté ». Et je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a, c'est un point de vue personnel, Diane, il y a des personnes qui ne font aucun effort pour rendre leur vie plus acceptable, plus agréable, qui acceptent une vie ratée, mais qui ne se donnent pas les moyens de transcender, de transformer, de sculpter leur vie. C'est ce que fait ce petit jeune homme, parce qu'il pourrait rester en Chine dans le chagrin et le malheur d'être un orphelin, se morfondre, Et finalement, il part à l'aventure et surtout, il va au-devant d'une quête et au-devant de son destin.
Oui, c'est très vrai. C'est un peu un clin d'œil pour notre époque, là aussi, peut-être inciter les jeunes gens, pas que les jeunes hein, d'ailleurs, mais à moins à ne pas accepter, oui. Il y a une sorte de vertu ainsi dans le courage, dans la dignité, peut-être que dont nous devons nous inspirer à nouveau. On en parlait tout à l'heure, que ce soit le handicap, moi je l'ai connu personnellement, ou d'autres choses. Je crois que nous avons entre nos mains le pouvoir et la capacité d'améliorer notre sort, d'améliorer même celui des autres. Je crois que nous pouvons toujours beaucoup plus que ce que nous pensons pouvoir. Nous avons des ressources et des moyens illimités. Il y a très peu de choses qui sont inaccessibles à celui qui en a le souhait réel.
Mais il s'agit, et là aussi, alors j'ai beaucoup aimé la légende des singes qui voulaient décrocher la lune.
Ah, oui.
Parce qu'elle nous met en garde sur le fait qu'on peut croire décrocher ce qui n'est finalement qu'une image, une apparition, un mirage, pour faire un peu simple. Vous voulez nous lire le passage,
ah,
Diane, s'il vous plaît.
Allez.
C'est en haut de la page à gauche de votre roman, s'il vous plaît.
Connais-tu la légende des singes qui voulaient décrocher la lune ? Je lui fis signe que non. Une tribu de singes avait décidé de subtiliser la lune pour se l'approprier. Après avoir grimpé les uns sur les autres, tendant et étirant leurs pattes autant qu'ils pouvaient, les singes essayèrent d'attraper l'astre brillant. Mais ils se rendirent rapidement compte que, bien que tenant des échelles les uns sur le dos des autres, jamais ils ne pourraient l'atteindre. La lune trônait bien trop haut dans le ciel. C'est alors que l'un d'entre eux, voyant son reflet scintiller au fond d'un puits, persuada la tribu de capturer la lune à la surface de l'eau. Alors le plus malin se pencha au-dessus du puits et tenta de la saisir à pleine main. La lune disparut, avant de réapparaître un moment après. Le plus agile d'entre eux puis sa suite, pensant la surprendre. Il plongea ses pattes dans l'eau avec une extrême rapidité, mais rien n'y fit, la lune sans cesse se dérobait. Certains d'entre nous, face à l'inatteignable, se contentent de poursuivre son reflet, pensant se saisir de l'objet véritable de leur souhait.
Et effectivement, ça rappelle aussi notre grand fabuliste Jean de La Fontaine, et pourtant c'est une légende qui vient de Chine et qui met en scène des animaux, et qui effectivement a bien sûr valeur didactique. Diane Ducret, on est presque au terme de notre échange. Je voudrais juste lire cette phrase aussi que je trouve superbe dans votre roman, c'est page 119. « Je vis le soleil entrer dans l'océan qui se referma pour qu'il le féconde durant la nuit. » Cette fécondation, c'est aussi celle de l'esprit en tout cas. L'océan a mis une petite graine que votre jeune orphelin qu'il a planté en lui, cœur, esprit et corps, mais qu'il va aussi semer en Chine et peut-être semer auprès d'autres personnes. C'est l'idée aussi d'une transmission et c'est finalement très optimiste.
Oui, je pense que c'est devenir soi-même la vague, finalement. Cette vague que rien n'arrête, cette vague qui va dérouler sa grâce et sa puissance à travers le monde jusqu'à la grève. J'aime assez cette idée, finalement. Devenir soi-même la vague, la puissance gracieuse de la vague. Je suis très touchée par notre échange et par les phrases que vous avez choisies. Elles me rappellent pourquoi j'ai choisi d'écrire ce livre. C'est vrai que parfois, au cours d'une promotion, il peut y avoir un caractère, hélas, répétitif de certains échanges ou de certaines questions. C'est malheureusement pas la faute des journalistes ou des lecteurs, bien sûr, mais c'est celui du temps très restreint que l'on offre dans les médias à la culture. Mais je suis particulièrement émue des phrases et que vous avez choisies et de la lecture que vous avez faite de ce texte qui me réchauffe le cœur.
À l'instant, c'était Diane Ducret, enregistrée le 28 juin 2022, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon, une émission que vous avez pu entendre une première fois le 9 juillet 2022 sur l'antenne de Radion. Notre wagon livre se termine. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h, pour une rétrospective des émissions de l'année 2022. Vous réentendrez Lola Semonin nous parler de sa saga de la Madeleine Proust par aux presses de la Cité. Vous pourrez également redécouvrir la vie d'Henriette d'Angeville, née en Côte d'Or et qui est devenue une haute figure de l'alpinisme, puisqu'elle est la deuxième femme, après Marie Paradis, à avoir conquis le Mont Blanc, 4807 mètres, ascension qui s'est déroulée les 3 et 4 septembre 1838. Et puis vous réentendrez également Jean-Marc Aubert, qui avait fait paraître L'insecte et le jardinier aux éditions de l'Arbre Vengeur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Rendez-vous samedi prochain à 11h, 21 janvier 2023, sur Radion. Au revoir et merci.